Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je vous propose que nous fassions une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13. Alors vous devinez de quel sujet il s'agit, 1 Corinthiens chapitre 13. Il y en a qu'un, il y a un unique texte. En tous les cas, il est reproduit sous différentes, il se décline sous différents autres aspects. Mais il s'agit de l'amour, voilà. L'amour toujours, l'amour dont on parle tant, mais dont on ne sait jamais ce que c'est. Alors, je rappelle, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si je vais trouver les mots pour parler d'un tel sujet. Parce que nous sommes, c'est vrai, confondus devant ce terme qui, hélas, dans notre monde, n'a vraiment pas la place qu'il mérite. On chante un petit cantique, hein, « Comment m'exprimer et trouver les mots pour dire « Seigneur Jésus, combien je t'aime ?» Alors c'est vrai que ça c'est l'expression des enfants de Dieu, des chrétiens, mais ce mot, eh bien, il peut être utilisé d'une manière tellement diverse, de dire « Je t'aime ». Voilà, on peut le dire à Dieu, mais ça reste tellement limité à nos propres sentiments, si petits. Et puis, on peut le dire aussi autour de nous, naturellement. L'amour ne fait pas de mal. Hein. Normalement, il ne fait pas de mal. Mais il faut qu'il soit purifié pour cela. Il faut qu'il soit sanctifié. Parce que même avec des mots d'amour, ou avec des gestes d'amour, on peut détruire. Alors c'est vrai que nous sommes devant un univers qui nous est inconnu. Parce que si on considère les choses, on peut toujours dire que le monde, depuis qu'il est à tourner sur cette planète, l'humanité... Alors, l'amour a toujours été, passez-moi l'expression, mais utilisé pour tout et n'importe comment. Et aujourd'hui, si nous regardons, en effet, ce que pourrait vouloir dire le mot amour, hein, il est partout. Ouais, il est partout. On a écrit, on a, en effet, on l'a chanté, on l'a décliné sur tellement de registres. Et puis aujourd'hui, est-ce que les hommes s'aiment davantage? On a une idée, certainement, mais quelle idée peut-on avoir de l'amour lorsque nous voyons les résultats et les fruits? Lorsque nous voyons une société en déliquescence? Ou pourtant, il y a toujours une manifeste volonté de l'homme pour dire, eh bien, il faut aller plus loin, il faut faire le bien. Il faut que nous atteignions les sommets. L'idéal, ça ne doit pas être impossible. Et pourtant, on s'aperçoit que l'homme s'effondre lamentablement dans des constatations que nous pouvons faire, et on s'aperçoit que c'est un véritable échec. Vous savez, je crois que pour nous chrétiens, nous sommes convaincus d'une chose, c'est qu'il y a véritablement un livre, il y a un message qui nous vient pas d'en bas, qui nous vient d'en haut. C'est un message de Dieu. On pourrait peut-être le dire, le renfermer dans un livre qui est une bibliothèque à lui tout seul, c'est la Bible, autour véritablement d'une manifestation de quelqu'un qui nous a tellement aimés qu'il nous a donné tout. Il nous a donné la vie et il nous a donné tout ce qui contribue à cette vie. Il nous a donné également, eh bien, de savoir que sans cet amour-là, nous pouvions être sauvés, nous pouvions être des hommes, et que nous pouvions, eh bien, rien comprendre à l'existence dans laquelle et la carrière dans laquelle Dieu nous avait voulu. Parce que c'est pas possible autrement. Tout repose et tout est tenu par l'amour. Tout a été fait par amour et tout va dans la dimension éternelle de l'amour. Alors l'apôtre Paul va s'atteler, si vous permettez, à la question. Et je crois que vraiment pour parler de l'amour, il faut avoir connu soi-même l'amour de Dieu. Autrement, qu'est-ce que nous disons? On parlera d'amour idéaliste, on parlera d'un amour sentimental, d'un amour platonique, d'un amour romantique. Bon, bien sûr, mais le monde est fait de tout cela et nous savons ce qu'il en est. Nous avons peut-être notre petite idée sur tout cela. Mais qu'est-ce qu'est le véritable amour? Aujourd'hui, et l'explication qui peut être donnée bibliquement, trois sens au mot amour agapé. Et puis philéim, et également eros. Alors vous savez ce que ça veut dire. Ça c'est l'amour de la terre, l'éros érotique, et puis tout ce qui va avec, et qui n'est pas en effet en dehors de la création de Dieu, dans la mesure où les choses sont faites dans la normalité, comme il convient. Mais est-ce que les hommes en ont fait? Alors là, c'est une autre affaire. Hein. Quand on voit la souillure, quand on voit le mépris, quand on voit l'exploitation avec ce mot et ce terme. Et puis, philéim, c'est-à-dire l'amitié, ça c'est aussi estime, c'est aussi une chose qui appartient à l'humanité. Mais si ça n'en reste là, si ça n'en reste que là, à ce niveau, eh bien on n'est pas sauvé. Parce que c'est ni le premier qui sauve, ni le second, c'est le troisième, agapé. L'amour qui vient du ciel, qui nous a été démontré à travers le sacrifice de Jésus, et qui fait que aujourd'hui, à travers cet amour-là, eh bien, nous sommes confondus. Il n'y a rien à dire et rien à faire sinon qu'à s'incliner. Pleurer sur nos péchés. Pleurer sur nos péchés de savoir que nous sommes aimés et pardonnés et que nous ne méritons rien. Ça, c'est le prix. Paul, on l'a dit de lui, quand il a écrit ce chapitre 13, on l'a appelé l'hymne de Paul à l'amour. Vous connaissez la chanson, hein? L'hymne à l'amour. Hein? Eh oui, mais on est si loin quand on connaît l'arrière-plan du contexte de l'écriture de cette fameuse chanson d'il y a à peu près une cinquantaine d'années. On s'aperçoit que c'était pas forcément très pur. Hein? Mais bon, c'est humain. Et d'autres ont dit que ce chapitre, en quelque sorte, était les béatitudes qui nous sont laissés dans l'évangile, les béatitudes mises en musique. C'est beau aussi, hein, une symphonie, une harmonie, en quelque sorte. Et Paul, eh bien, a voulu dire justement ce que pouvait être précisément cet amour-là qui vient de Dieu. Alors, si vous regardez le contexte de ce passage, vous allez vite apprendre que ce chapitre 13 n'a pas été écrit pour rien, et il n'a pas été mis à cette place pour rien non plus. Parce que avant le chapitre 13, c'est logique, il y a le chapitre 12, Et après le chapitre 13, il y a le chapitre 14. C'est comme ça, non? Je me suis pas trompé dans le calcul. Parce que bon, c'est quand même assez simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chapitre 12, chapitre 14. Paul va expliquer à l'Église, pour tous les temps, la différence qu'il y a entre les dons et les fruits. Eh oui. Les dons de Dieu, les dons de l'Esprit, et le fruit de l'Esprit. Les uns sont au pluriel, celui dont nous allons parler est singulier, et c'est lui qui est au cœur. Comme si véritablement Paul était l'orfèvre que nous désirons entendre et voir et contempler son travail, c'est comme s'il avait mis la plus précieuse de toutes les perles, de toutes les pierres précieuses, de tous les joyaux qui soient dans l'histoire des hommes et sur cette terre, dans un écrin. Ça, c'est la perle. Chapitre 13, c'est la perle. C'est l'amour. Et puis de chaque côté, il y a ce qui enthousiasme tant les hommes, la puissance, les dons spirituels, les charismes. À travers ce que vous savez lire et que vous avez déjà lu dans les textes. Alors, les dons de l'esprit et les fruits, le fruit de l'esprit. Et quand on regarde simplement en essayant de saisir ce que veut dire le fruit de l'esprit, c'est un singulier pluriel, ça commence par là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la foi, c'est la tempérance, c'est la longanimité, c'est tout cela la foi. Alors pourquoi cette situation? Parce que les hommes sont beaucoup plus enthousiasmés et beaucoup plus exaltés à la puissance que finalement au fruit. Or, nous sommes sauvés, non pas tant pour manifester la puissance de Dieu, parce que c'est son bon vouloir, mais pour manifester le fruit qui est le caractère de Christ en nous. Comprenez? Le caractère qui va nous retrouver et qui est en préparation pour le ciel. Vous l'avez lu avec moi, il n'y aura plus de dons spirituels de l'autre côté. Le parler en langue aura disparu. Les prophéties auront disparu. Pourquoi? Puisque nous serons dans un univers où nous connaîtrons tout, nous saurons tout. Mais par contre, de l'autre côté, et ça c'est le grand défi de la rédemption, Dieu est venu sauver des hommes perdus, des hommes souillés, des hommes corrompus, pour en faire des saints, pour nous transformer à l'image de la perfection qu'il est lui-même, et nous donner, parce que c'est l'essentiel, nous donner l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alors on en est loin, parce que c'est, en parlant de cette manière, c'est vertigineux. Si vous permettez, si je peux trouver le mot, c'est vertigineux, parce que soit je suis un orgueilleux qui s'ignore, et je me dis je sais déjà tout, je connais tout, je suis le phénix, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, et alors à ce moment-là je ne connais rien, je ne suis rien, mais alors vraiment rien de rien, on va le voir. Ou alors à ce moment-là je viens devant Dieu, et je lui dis Seigneur, qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bon en moi? Qu'est-ce qui pourrait représenter en moi quelque chose qui te plaise? Et à ce moment-là, dans ma confusion, je dis, Seigneur, je ne suis rien. Et si je suis quelque chose, je ne le suis qu'à travers ta grâce et à travers ta faveur. Parce que je suis un misérable, c'est tout. Paul le dira, parce qu'avant d'écrire ça, il avait écrit aussi l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains, il dit, mais quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Quand j'ai de bonnes intentions, eh bien je m'aperçois qu'il y a comme un autre homme à l'intérieur de moi-même, et qui est tellement fort et tellement impétueux, et même si je prends de bonnes résolutions, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et il s'écrira de cette manière qui montrera finalement, eh bien qu'il avait donné le coup définitif à sa vie, il dira, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est pour ça que un christianisme orgueilleux, c'est un christianisme qui n'a aucune valeur. Un christianisme prétentieux, c'est un christianisme qui n'existe pas, même pas de nom. Parce que nous sommes et nous existons de par uniquement l'amour que Dieu nous a montré. Et c'est tout. Et que Dieu nous a donné. Qui suis-je que tu ne m'aies donné, Seigneur? Alors Paul, je résume un peu son histoire, un peu notre histoire à chacun, puis l'histoire de tous les temps. Paul le dira. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? toutes les prétentions humaines, toutes les langues de la terre et des anges, quand bien même j'aurais appris tout cela, quand bien même tous les dons de l'Esprit dont Dieu pourrait me revêtir parce qu'il m'a choisi pour être son fils, son enfant, et qu'il veut que je puisse accomplir son œuvre, parce qu'il m'a doté de dons, si j'en ai, s'il en est, malgré toute la connaissance universelle que je pourrais disposer, malgré la foi de l'impossible jusqu'à dire à une montagne, eh bien tu vas d'ici à là, imaginez-vous, faut quand même être costaud, hein. Ou à changer la nature des choses, quand bien même je pourrais déployer avec mes bonnes intentions humaines, avec le plus bel altruisme, la plus grande charité conçue à travers un cœur d'homme, eh bien si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Écoutons Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand bien même je serai l'homme le plus spirituel, ou considéré comme tel, ou de réputation ainsi, devant ma personne, on se courberait en disant, mais c'est un homme saint, c'est un homme super saint, comme certains se font appeler, à tort. Alors, à ce moment-là, ce sont des prétentions vaniteuses. Paul dit pour lui, mais si je n'ai pas l'amour, à quoi je vais ressembler? Je vais être un petit peu trivial, mais je ressemble à une casserole. Oui, je ressemble à de l'airain, vous savez, comme du bronze, mais qui sonne lourd, qui sonne à la limite faux, qui sonne grave. Je ressemble à de l'airain ou à une cymbale qui retentit, mais qui aurait perdu finalement, eh bien, tous ses éléments de sonorité agréable. Comprenez? On aime bien écouter de la musique lorsque les choses sont justes, lorsque les instruments sont bien accordés, mais quand c'est désaccordé, c'est difficile. C'est même insupportable, c'est grinçant, c'est même énervant, c'est irritant. Et Paul le dit lui-même, eh bien à quoi ça me servirait-il? Même si j'avais les plus belles paroles inspirées, soit parce que je les aurais couchées sur du papier dont je les aurais écrites, ou alors que je les proclamerais comme nous le faisons ce matin, mais si je n'ai pas l'amour, et moi en vous disant ça ce matin, je me demande moi-même, je dis, mais Seigneur, où en suis-je? Où en est mon propre amour? Pour toi, on l'a chanté, on l'a dit, on l'a lu tout à l'heure. Mais où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai? Alors, je ne vais pas me décourager pour autant, parce que même si je mesure, même si j'évalue la mesure d'amour que j'ai pour le Seigneur ou pour mes frères et mes sœurs et pour le monde qui m'environne, je peux dire, mais vraiment, je suis vraiment petit en amour. Je ne sais pas aimer. Je sais aimer quand ça me plaît, vous comprenez? Mais quand ça me plaît pas et quand ça me déplaît, c'est autre chose, hein. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux dire, Seigneur, si véritablement je ne t'avais pas, je ne te connaissais pas, alors je ne pourrais vraiment pas aimer et grandir encore et faire des progrès dans l'amour, parce que j'ai vraiment besoin de toi. Tu es ma respiration, Seigneur, et sans le souffle qui vient de toi, eh bien, je ne suis rien. Tu es mon esprit. Tu es tout le sentiment que tu as mis en moi, mais c'est de toi et je dépends de toi. Imaginez-vous les illusions d'un monde qui veut essayer de construire une société, qui veut construire une civilisation, alors qu'il emploie le mot amour et qu'il ne sait même pas qui est Dieu, et qui a évacué Dieu, qui l'a complètement mis à la porte. Et Paul poursuit, et là c'est encore toujours la même musique. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, eh bien, je ne suis rien. Alors peut-être que ça s'adresse davantage à nous, les chrétiens charismatiques. Le don de prophétie, c'est bien, hein. C'est formidable de dire et de parler au nom de Dieu et de pouvoir, devant mes frères et mes sœurs, dire, eh bien, des pensées qui sont encore cachées. Et là, c'est vrai que c'est une sacrée promotion. Hein. Je suis prophète, vous rendez compte? Alors attention, hein, faut bien regarder la doctrine biblique. Hein. Quand on est prophète dans l'Ancien dans le Nouveau Testament, c'est pas tout à fait la même chose que dans l'Ancien. Hein. Ouais. Mais quelquefois, l'adversaire nous abuse. Et il abuse aussi de notre méconnaissance d'une bonne base biblique. Alors, il ne faut pas se tromper. Quand bien même j'aurai le don de prophétie, je serai inspiré, je serai saisi à un moment donné par la pensée de Dieu. Parce que les prophéties, il faut quand même pas exagérer, ça se prépare pas 8 jours à l'avance. C'est une pensée spontanée, hein. Alors, à ce moment-là, quand bien même je donnerai avec une grande exactitude, avec une grande précision, avec quelque chose qui pourrait être éblouissant même à la limite, d'exactitude dans la pensée de Dieu, ben je peux avoir tout ça, je peux exercer le don de prophétie dans les meilleures conditions, avec les termes les plus beaux, même célestes, le ciel ouvert, quand bien même j'aurai la science de tous les mystères, vous vous rendez compte? Paul était un homme qui était un docteur au niveau doctrine. Ben, vous savez, il dira, cette parole dans Corinthiens, il dira, mais la connaissance enfle, mais l'amour, à ce moment-là, l'humilité, vous savez, ça nous garde. Et heureusement d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que Dieu lui avait mis une écharde dans la chair, lorsqu'il avait eu ses révélations et qu'à un moment donné, dans son existence, il était monté jusqu'au 3e ciel et qu'il avait vu des choses dont il n'est pas possible de décrire parce que ce sont des choses ineffables. Et il sera touché profondément à ce moment-là. Et Dieu lui expliquera que, il lui dira, si dans ces termes ça vous convient, il dira, mais mon brave Paul, tu sais, je t'ai fait monter là, là où les hommes ne montent pas. Tu as vu des choses qui sont innommables, tellement elles sont belles et glorieuses et sans nom. Mais je t'ai mis une écharde, afin que tout cela, eh bien, ne vienne pas t'enorgueillir. Ouais. Et vous savez ce que Paul va traduire la chose? Il traduira la chose de cette manière, parce qu'il priera le Seigneur en disant, Seigneur, enlève-moi le mal qui est en moi. Enlève-moi la chaîne qui me retient. C'est vrai, Seigneur, tu m'as montré des belles choses, tu as fait de moi des grandes choses, avec moi de grandes choses. Mais Seigneur, j'ai cette douleur à l'intérieur de moi-même. C'est comme quelque chose de récurrent et de permanent qui me fait souffrir. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, parce qu'il faut comprendre aussi la discipline de Dieu comme une forme d'amour, pour ne pas que nous finissions de nous perdre complètement par, finalement, arrogance, alors il dira, mais vous savez, j'ai appris une chose, c'est vraiment quand je suis faible que je suis fort, hein. Seigneur, aide-moi à comprendre ça aussi. Aide-moi à comprendre pourquoi je suis malade. Je parle pas pour moi ce matin, mais pourquoi je suis frappé. Pourquoi j'ai une maladie. Pourquoi j'ai ceci et cela. Pourquoi j'ai tant de soucis avec ma famille, avec mes enfants et tout ça. Seigneur, aide-moi à comprendre. Il doit bien y avoir probablement une raison d'amour dans tout ça. Parce que Dieu ne fait pas souffrir gratuitement, hein, c'est pas ça. Hein. Dieu nous aime. Et Dieu nous aime infiniment, plus que nous pouvons le passer. Alors, le mystère de toute la connaissance. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, imaginez-vous, c'est très impressionnant, hein, quand on voit des choses extraordinaires au milieu de nos églises. Ah, il y en a un peu moins, hein, c'est vrai. Mais il y a eu un temps où dans nos églises de réveil, waouh, le miracle, il était partout, hein. Mais soyons raisonnables, est-ce que nous ne sommes pas le miracle, chacun d'entre nous, le miracle de Dieu, quelque part? Parce que c'est bien de voir des boiteux marcher, des aveugles voir, etc., etc. Mais vous savez, quand même, je dois le répéter, la chose la plus belle et la plus grande, c'est quand un homme donne son cœur à Jésus, hein, qu'il se convertit, qu'il se repente de ses péchés, parce que là, faut le faire. Hein. Et ça, ça vient pas de nous, ça vient de lui. Hein. Et vous savez dans quelles conditions? C'est parce qu'il nous-mêmes, malgré toutes les souillures et toutes les choses sales, mauvaises que nous avons pu commettre, c'est parce qu'il nous aime. Un jour, on comprendra tout ça, mes frères et sœurs. Ouais, on le comprendra. Vous savez comment on va le comprendre? Dans un clin d'œil, parce qu'on le verra. Aujourd'hui, nous marchons comme des aveugles sur un chemin qui, certes, est difficile, environné de toutes sortes de choses. Alors, la foi qui transporte les montagnes. Je peux le dire. Ouais, Seigneur, c'est formidable cela, hein. Mais combien Paul dirait, parce que si quelqu'un a pu transporter des montagnes, c'est quand même Paul, hein. Parce que quand on voit la somme de miracles, la somme, l'expression de la puissance, de la toute-puissance de Dieu que Dieu a manifesté avec un Paul, vous vous rendez compte, Étichus ressuscité, et puis tant d'autres miracles à travers le message de l'évangile. Quand on voit ces hommes ces premiers temps apostoliques, évangéliques, comme Jésus lui-même dans l'Évangile, ils marchaient, ils allaient devant les hommes, et c'est comme s'ils ouvraient la main, et c'est comme s'il y avait une pluie de miracles et de surnaturels qui se développaient, qui tombaient de leurs mains. Et voilà, les hommes prenaient et recevaient. C'est formidable cela, hein? Et quand bien même j'aurais tout ça, quand bien même j'aurais même la réputation d'être un prédicateur ou un évangéliste et un missionnaire appelé ici sur les quatre continents, et que quand bien même nous aurions cela à notre disposition, dans quel but et quelle motivation y a-t-il à l'arrière? Si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour la glorification de Jésus-Christ, si c'est pour le salut des âmes, alors à ce moment-là, oui, mais si c'est pour dire « je suis devenu », alors à ce moment-là, ce n'est rien du tout. À quoi je suis comparé? Alors, cymbale qui retentit, on a parlé là d'un airain. Également, qu'est-ce que Paul nous dit? Si je n'ai pas l'amour, eh bien je n'ai rien. Parce que c'est l'essence même, c'est le fondement même. Et quand même, je distribuerai pour tous mes biens, pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, vous rendez compte? Alors là, on peut parler de charité universelle ou de charité humaine, mais alors poussée au paroxysme. Le philanthropisme, l'altruisme, tout ce que le monde nous dit aujourd'hui, finalement. D'un côté, on fait la guerre pour détruire, et d'autre côté, on nourrit ceux qui ont été touchés par la guerre. Mais vous croyez pas que le chien, il se mord la queue, là? Excusez-moi l'expression, hein, c'est violent. Hein. Moi, je suis profondément attristé, vraiment, de voir ce qui se passe dans notre monde. À pleurer, mes frères et sœurs. Je veux pas exagérer. Mais quand on voit qu'on répare d'un côté et qu'on est en train de casser de l'autre, et qu'avec tout cela, on nous fait la morale, je vais me faire mettre en prison, hein, qu'on nous fait la morale parce qu'on n'est pas suffisamment des gentils garçons et des gentilles filles, hein, parce qu'il y a ceci et cela, mais Seigneur, mais dans quel monde on est? Dans quel monde? Et en plus, on nous demande, on nous fait la leçon sur l'amour. Terrible. Terrible, terrible la souffrance des hommes, vous comprenez? Parce que quelque part, on va même jusqu'à se récupérer de ce que des gens souffrent, peut-être sur d'autres continents, pour se donner une bonne conscience à soi-même, vous comprenez? Je parle de nos nations, hein. C'est renversant, c'est troublant. Moi, je crois que Dieu pleure tous les jours de voir cette humanité. Mais fort heureusement, l'évangile est encore annoncé. Fort heureusement, il y a encore des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui parlent de l'amour de Dieu dans notre monde. Alors, quand je distribuerai tous mes biens, si j'avais une fortune, je ne l'ai pas. Mais bon, supposons, Paul le dit, quand bien même j'irai au-devant pour dire, ne tuez pas tous ces gens, mais tuez-moi, brûlez-moi, si véritablement ma vie brûlée peut épargner la leur. Il y en a qui l'ont fait, hein. Ce sont des grands hommes, hein. C'est vrai. Mais quand bien même je m'avancerai avec toute la capacité et le crédit que l'on pourrait me donner à mon geste, alors à ce moment-là, si je le fais pour que ça soit quelque chose qui me revienne à moi-même, où Dieu est oublié, où véritablement, eh bien, les hommes sont oubliés dans cette affaire, dans le sens essentiel, c'est-à-dire leur salut, alors quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Non seulement tout à l'heure nous avions vu la proposition, la conclusion que cela n'était rien, que il n'était rien, Paul, si tel était son désir et sa démarche, mais là, ça va encore plus loin. Cela ne me sert à rien. C'est comme si je n'avais pas fait. Ça ne sert strictement à rien. Sinon, peut-être pour être connu des hommes, et lorsque je serai mort, on mettra mon nom sur une plaque dans une rue. Alors, excusez-moi, mais ça nous fait une belle jambe. Comprenez, parce que notre place, elle n'est pas ici-bas, elle est de l'autre côté. Notre nom, il n'est pas ici-bas, notre nom, il est de l'autre côté. Nous aurons, et nous avons déjà un nom nouveau de l'autre côté. Quelle vanité cette glorification humaine, vous rendez compte? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, de quel amour s'agit-il? L'importance, nous avons parlé de ce qu'il n'est pas. Permettez-moi quelques instants pour dire ce qu'il est. Et là, nous allons aux sources de la vie même. Nous allons aux sources du ciel, parce que l'amour, le vrai, celui dont Paul nous parle, il n'est pas ici-bas. Celui qui est ici-bas, ce n'est qu'un ersasme, voire même une caricature, bien que je reconnaisse qu'il y ait des sentiments vrais, sincères et purs, Mais la seule sanctification de nos sentiments humains, eh ben c'est Dieu qui les sanctifie, c'est tout. Hein. Jésus le dira avec beaucoup d'audace, jusqu'à choquer, ce qui lui vaudra la croix d'ailleurs, de toute façon, parce que beaucoup de choses que Jésus a dites, ça lui a valu la croix. Hein. Mais quand il dira, mais si quelqu'un veut me suivre, et qu'il aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et ceci et cela plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple et de rentrer dans le royaume de Dieu. La véritable sanctification de nos affections les plus naturelles et les plus légitimes, nous en tant que chrétiens, et pour le monde entier, c'est quand véritablement nous avons donné la prééminence de l'amour à Jésus, et c'est lui ensuite qui va nous apprendre à aimer. Comment il faut aimer. Il y a aussi des écueils dans l'amour des couples chrétiens. Il y a aussi des écueils dans l'amour des parents chrétiens vis-à-vis de leurs enfants et dans l'autre sens aussi. Il y a également des écueils dans tellement de situations. Et le seul qui puisse nous donner de vraiment apprendre à aimer, à sanctifier, à purifier nos affections, même les plus légitimes, eh bien c'est le Seigneur. Alors il nous dit d'abord, la première chose, c'est que l'amour est patient. Ouais. Et ça, c'est pas le fort de l'homme hein, dans notre société d'aujourd'hui. Hein. On le voit tous les jours. Hein. Parce que nous sommes dans une société de moi, une société d'ego, où on nous a appris déjà tout petit que finalement, eh bien, tout marchait avec le bouton du distributeur. Vous appuyez, ça descend. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pas ça. Hein. Il faudrait peut-être corriger ces réflexes qui faussent notre conception. Et combien d'enfants de Dieu, lorsqu'ils prient Dieu et que ça ne vient pas assez vite, eh bien, s'en prennent au Seigneur. Mais si le Seigneur nous fait attendre comme un père fait attendre peut-être parfois son enfant, c'est qu'il a des raisons, vous comprenez? Des raisons que nous ne comprenons pas. Seigneur, apprends-moi à être patient. Alors à ce moment-là, je comprendrai un tout petit peu la dimension de ton amour. Il est plein de bonté, cet amour de Dieu. Et si vous voulez faire la description, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais vous prenez Jésus, son caractère, la manière dont il a marché parmi les hommes, et vous verrez que tous ces mots, ils sont là, dans la perfection, dans la personne, dans la personnalité de Christ. Alors, patient, il est bon. La bonté, c'est une bonne disposition de bienveillance. Le contraire est absent. Pourquoi je penserai mal? Pourquoi je ferai mal? Mais la bonté, c'est justement cette inclinaison permanente, ce soutien de dire, eh bien voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir, non pas pour moi-même, non pas pour m'en glorifier, mais pour que la bienveillance soit reconnue comme quelque chose qui va faire du bien à mon semblable et à mon prochain. L'amour n'est point envieux. Ah oui. Tu sais ce que tu as, moi ça me ferait bien plaisir, hein. Si j'osais. Eh oui. Bah tu ne convoiteras point. Voilà. Hein. Ça c'est les 10 commandements. Il n'est point envieux et nous sommes dans un monde où nous sommes tous excités à chaque instant, à chaque moment, par les médias, à être, nous sommes projetés dans une, comment dire, dans un désir permanent de satisfaire à nos besoins. Nous sommes actuellement en pleine crise financière et j'ai jamais eu autant de publicité pour des emprunts, des crédits et les banques, etc., etc. Bravo. Terrible, hein? L'amour ne se vante point. Mais, vous rendez compte, regardez comment je vous aime. Ah, il n'y en a pas deux, hein, comme moi, hein. Regardez le bien que j'ai fait. Vous rendez compte, je lui ai donné ceci. Bah, pauvre garçon, il n'avait plus rien, vous rendez compte? Regardez la main tendue. Il n'est pas un vieux. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Il ne s'enfle point d'orgueil. Ah oui. Moi, il n'y en a pas deux comme moi. Hein. Vous savez, l'histoire du pharisien là qui rentre dans le temple. Oh, dis donc, Seigneur, hein, qu'est-ce que tu dois être content de moi, parce que finalement, le temple de Jérusalem, si tu n'avais pas quelqu'un comme moi, un bon chrétien, un bon croyant comme moi, mais ça serait la faillite. Vous vous rendez compte? Regarde, je donne la dîme de mes biens, je fais ceci, etc., etc. Dis donc, qu'est-ce que tu en penses du gars qui est derrière, là, qui est en train de se frapper la poitrine? C'est vraiment un pauvre type, hein? Hein? Moi, je ne suis pas un adultère comme lui et tout ça, mais qu'est-ce qu'il a été trouvé pour savoir s'il est adultère ou pas? Orgueil. Il y en a un qui est resté dans ses péchés mort, 3 fois mort comme un arbre sec, et l'autre qui se frappait la poitrine qui était derrière, qui pleurait véritablement sur ses fautes et ses péchés, ben il est ressorti justifié, vous comprenez? Seigneur, c'est ça l'amour aussi. Hein. Seigneur, donne-moi d'avoir un regard qui soit un regard véritablement qui soit réaliste aussi. Sur moi-même, mais aussi sur les autres. Il ne fait rien de malhonnête, c'est-à-dire il n'est pas roublard, il n'est pas combinard, il n'est pas de... à la manière d'Ananias et Saphira. Parce que vous connaissez l'histoire dans le livre des Actes. Il s'était dit, dis donc, hein, on a un héritage, on n'est pas obligé de dire que finalement on a gagné, on a 100 000 euros là comme ça. Hein. On dit qu'on en a gagné que 50 après tout l'héritage. Puis les 50 dans notre poche et 50 pour l'église. Vous vous rendez compte, c'est un geste magnifique. Dites donc, il n'y avait pas de défibrillateur ce jour-là. Ils sont tous passés tous les deux, dites donc. Il ne cherche pas son intérêt. Ouais. Il est large, il est généreux, il ne regarde pas ce que l'on peut donner cet amour en disant « mais qu'est-ce que je pourrais avoir en retour, vous comprenez ?» Il ne s'irrite point, il se met pas en colère. Ça fait partie de la patience. Hein. Vous pouvez pas savoir ce que je vous aime. Attention, faut pas marcher sur les pieds, hein, parce qu'autrement vous allez voir. Hein. Ce sont des petites choses comme ça, des clins d'œil, mais qui montrent quand même que quelque part, sous le couvert un petit peu de l'humour, il ne s'irrite point. Je veux t'aimer. Je vais t'obliger à m'aimer aussi. Vous allez voir, vous pouvez y aller, hein. Là, vous allez avoir le mépris. C'est ce que nous dit le livre des Cantiques des Cantiques, hein. L'amour, il ne s'oblige pas, hein. Il ne soupçonne pas le mal. Hein, dis donc, il y aurait pas quelque chose, là, quand même, quelque part de ce côté-là, hein. Oui, puis de commencer à faire de l'inquisition et tout ça. C'est très malsain, tout ça, hein. Il ne se réjouit point de la justice. Ah, je l'avais bien dit, je l'avais prévenu, s'il avait écouté mes conseils de bonté et d'amour. Ah oui, ben bien sûr, il n'avait pas vu le mur et puis il a pris le mur. Et bien c'est bien fait pour lui, parce que la prochaine fois, il va écouter. Ça dénature un petit peu les formes de l'amour, là. Hein, et même le sens même de l'amour. Hein. Je l'avais bien dit. Mais il se réjouit de la vérité. Seigneur, donne-moi vraiment une notion juste de ce qui est vrai. Et vous savez, s'il y a une prière que nous pouvons faire monter vers le Seigneur, « Seigneur, donne-moi d'avoir l'esprit de vérité en moi et l'amour de la vérité. » Alors après, c'est normalisé. Hein. Il excuse tout. Il n'est pas faible pour autant, cet amour. Il n'est pas mou. Il n'est pas veule. Non, mais il supporte tout. Parce qu'il croit tout. Il espère tout. Il est capable de tout supporter. Heureusement que quelqu'un nous a montré que c'était possible. Hein. C'est Jésus à la croix. Et là, nous avons la perfection de cet amour dans les quatre déclinaisons qui nous sont données, que Jésus, lui, l'a réussi. C'est pourquoi il nous est dit que nous pouvons venir à lui, il est le souverain sacrificateur parfait, et que nous pouvons, eh bien là, véritablement nous approcher, parce qu'il peut compatir à toutes nos faiblesses et à toutes nos tentations, et si nous venons à lui, c'est lui qui est encore capable de nous donner cette force-là. La force de l'amour, la force d'aimer. L'amour ne périt jamais. Alors maintenant, ce sont les qualités de l'amour, nous venons d'en parler, mais la permanence de l'amour. Écoutez bien, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qu'en partie. Alors n'allons pas dire que nous sommes des extraterrestres et que parce que nous sommes chrétiens et même si nous avons une bonne base biblique et que nous sommes dans une bonne application d'une connaissance de l'Écriture sainte, ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est rien à côté de ce que nous connaîtrons lorsque nous serons de l'autre côté. Même le plus grand des théologiens, ou le plus grand doctrinaire, hein, celui qui l'exégèse, celui qui fait l'exégèse de la Bible, hein, et qui véritablement, eh bien là, est capable de nous épater ou de nous étonner, non, aujourd'hui nous ne sommes que des embryons, et nous nous préparons à revêtir un corps nouveau. Vous comprenez, j'en avais parlé il y a quelque temps. Oui, nous sommes encore à l'état embryonnaire. Alors ce que nous avons et la connaissance que nous avons, ça nous sert pour aujourd'hui, naturellement. Pour notre monde, pour notre vie. Merci Seigneur. Mais imaginez-vous le souffle que ça va être quand nos yeux vont s'ouvrir sur l'éternité, sur la splendeur du ciel. Vous vous rendez compte, vous qui avez toujours rêvé de voyager, de parcourir, de prendre un avion et d'aller jusqu'au bout du monde, mais là vous irez jusqu'au bout de l'univers. Vous vous rendez compte? Alors, je vous expliquerai pas comment on va y aller. J'ai pas trop d'idées, mais les proportions de notre corps seront tout à fait différentes. Hein. Un corps glorifié, et là nous connaîtrons. Et nous allons nous émerveiller, il y a déjà des belles choses à s'émerveiller sur la terre. Si on sait prendre le temps et que l'on regarde les merveilles et la création de Dieu, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que ça va être de l'autre côté, hein? N'oubliez pas votre appareil à photo, hein, parce que là, il va falloir garder des souvenirs. Alors, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Je me suis posé souvent la question, je me dis, mais est-ce qu'on se souviendra de ce qui s'est passé ici-bas? Mystère, je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez dans le ventre de votre mère? Pas de photographie, non? Si, des échos, là, vous savez, c'est tout, hein? Ça, c'est le mystère, hein? Ça va être quelque chose, hein? Imaginez-vous. Ouais. Mais ce que nous avons appris maintenant, ça va nous servir pour de l'autre côté. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Heureusement qu'on a changé, parce que, dites donc, les babillements, hein, ça serait quand même assez particulier. C'est mignon, un enfant, quand ça parle, hein, quand ça commence à parler, hein. C'est formidable, c'est une beauté, ça fait la joie des parents, vous vous rendez compte, hein. C'est mignon, parce que bon, les mots sont pas tout à fait comme il faut, et puis, voilà, hein. Mais bon, on n'est pas resté comme ça, parce qu'autrement, ça serait peut-être un petit peu difficile. Alors, je parlais, je pensais comme, je raisonnais comme un enfant. Et puis la vie aidant, le temps passant, eh bien, je suis devenu un adulte. Voilà. Et on n'a pas fini d'apprendre, hein. Tout au long de notre vie, même, je pense, en rendant hommage à nos plus anciens ce matin, ben, je pense que quand vous regardez la vie que vous avez passée, même après 80 ans, 85 ans, vous dites qu'est-ce qu'il y a encore de choses à apprendre. On se sent petit et parfois même humble. Alors, je suis devenu, à un moment donné, je suis devenu un homme, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Et aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, si nous pouvons faire la comparaison, et dans le domaine particulièrement du sentiment de l'amour, ouais, nous sommes comme devant une glace, là, un miroir, et d'une manière obscure, bien que nous disions que nous voyons clair quand même, hein, quoi qu'on ait quand même aidé, hein, avec ça peut nous aider quand même, hein, mais toujours est-il que c'est quand même assez confus tout cela. Et on devrait se réjouir, hein, et on devrait être tellement heureux d'être chrétien, de connaître ce que nous connaissons, même si ça reste très partiel, de nous réjouir de ce que nous allons découvrir de l'autre côté. Vous n'avez pas envie d'aller au ciel? Ben, j'ai pas l'impression que vous êtes prêts, mais enfin bon, ça peut se préparer. Ben oui, mais bon, bien sûr, on comprend, nous sommes là, et c'est bien, et je pense que Dieu nous donne aussi d'être là, hein, parce que nous avons une mission à remplir. Mais quand même, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi jusqu'à déborder de ce qui peut véritablement la placer. Et la situation que tu m'as préparée de l'autre côté. Voilà. Alors, nous voyons qu'à travers un miroir, d'une manière obscure, mais vous verrez, nous verrons face à face. Et aujourd'hui, je connais en partie, mais demain, écoutez bien le terme, il est choisi. Alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Oh là! Je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est-à-dire que, quelle est l'ambition ici-bas? Quelle est l'attention que je porte? Quel est l'investissement à connaître ce monde à venir, ce monde divin, ce monde parfait, ce monde, est-ce qu'on peut dire, oui, ce monde parfait, idéal? Et autant que je me serai appliqué à soupirer, à désirer, et en mettant au cœur même de ma recherche ce qui est véritablement le fondement, la base même, qu'est l'amour, alors, à ce moment-là, si je possède cette perle de grand prix, si je possède cette perle de grand prix, alors elle va illuminer tout le reste. Elle va illuminer tout le reste. Et sur la terre, cette perle de grand prix, elle est dans un écrin. C'est mon humanité, c'est mon corps, c'est tout ce que je suis en tant qu'homme, en tant que chrétien, je voudrais le préciser quand même. Et quand bien même, bien Dieu m'a donné dans cet écrin de pouvoir disposer des dons spirituels, des dons, des talents, de toutes sortes de choses. Je n'oublie pas que l'essentiel, c'est pas l'écrin, c'est la perle qui est à l'intérieur. N'oubliez pas, si vous voulez faire un cadeau, n'oubliez pas que si vous offrez une belle boîte, la personne qui va regarder va ouvrir la boîte, hein. Et s'il n'y a rien dedans, vous risquez d'être déçu, hein. Oui. Alors, vaut mieux peut-être encore, à la limite, offrir la perle à la main, et puis sans écrin, parce que ça va disparaître, tout ça, hein. D'ailleurs, en principe, quand vous offrez une belle bague à une dame, bon, l'écrin, elle va peut-être le garder, elle mettra, elle l'utilisera pour ceci et cela, mais la chose qui sera le plus précieuse et qu'elle portera sur elle, c'est la perle. Hein. Eh bien, nous, ce que nous devons porter au fond de notre cœur, eh bien, c'est cette perle. Et je termine, il est dit ceci, « Maintenant ces trois choses demeurent, et elles demeureront pour l'éternité, et nous les retrouverons, et elles nous poursuivront jusqu'au bout, parce que ça fera partie finalement, eh bien, de cette création de Dieu. Maintenant trois choses demeurent, la foi, c'est le saisissement dans l'immédiat des promesses de Dieu, c'est maintenant la foi. » Ouais, la foi c'est ça. L'espérance c'est ce qui est à venir. Et je vis d'espérance, parce que je me réjouis des perspectives qui me sont préparées, surtout quand je lis un texte comme nous l'avons lu ce matin. Mais la troisième chose, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de toutes les choses, c'est l'amour. Seigneur, confonds-nous par ton amour. Donne-moi de croire, donne-moi de grandir, donne-moi de vivre de plus en plus dans cette dimension de ton amour. Seigneur, je suis petit, je ne suis rien, mais Seigneur, tu peux faire de ma vie, et bien véritablement l'écrin qui va te glorifier. Et ce sera à la gloire de ton nom, ce sera pour le salut des âmes, ce sera également pour le bonheur de tous. Parce que rien ne peut se mettre contre l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que combien nous avons besoin. Nous avons besoin, j'ai besoin, Seigneur. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait conscient d'aller un petit peu plus loin avec toi. Aide-moi à faire de nouveaux pas. Aide-moi, Seigneur, à bien comprendre que il y a l'homme naturel, il y a l'homme sorti du rocher, Seigneur, avec ses scories, avec toutes ses aspérités, l'homme brut, le vieil homme qui se défend, qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas renoncer à lui-même. Et puis il y a cette autre nature que tu as créée en nous, en chacun d'entre nous, à travers l'expérience de la repentance, l'expérience de notre décision à se convertir à Jésus-Christ, c'est-à-dire de changer de vie pour Christ, et puis la nouvelle naissance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que nous sommes devant toi ce matin et en effet avec un sentiment qui n'est pas celui d'une supériorité religieuse ou d'une supériorité de connaissance ou de capacité ou d'aptitude parce que nous serions chrétiens, évangéliques ou autres. Non, Seigneur, nous sommes comme le reste des hommes, nous sommes des hommes. Et puis, Seigneur, il s'est passé une chose, un miracle dans notre vie. C'est que ce Dieu qui nous a créés est un Dieu qui avait un projet de nous sauver. Et tu nous as permis, Père éternel, de comprendre qu'en effet le salut était venu à travers la personne de Jésus-Christ et qu'il n'y avait qu'une chose à faire. C'était pas de faire ceci ou cela, de mériter ceci et cela. C'était de croire que Christ est mort pour nous, pour chacun d'entre nous, à la croix du calvaire, qu'il a fait l'expiation de nos péchés, et qu'aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous pouvions être vraiment comme lui, à l'exemple, à l'image de Christ. Seigneur, je te demande de nous visiter les uns et les autres. Donne-nous d'être petits, Seigneur, pour un jour devenir grands dans ton ciel. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles, pour avoir véritablement, Seigneur, eh bien, la juste place, qui correspondra, Seigneur, à cette œuvre que tu as accomplie. Donne-nous, Père éternel, d'être saints, et tu nous vois déjà saints, nous avons été lavés, blanchis, transformés par Christ. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, comment pouvons-nous appréhender tout cela? Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par un légalisme forcené, c'est tout simplement par la force de t'aimer. Et ça, Seigneur, moi je ne l'ai pas, mais toi tu peux le mettre dans mon cœur. Donne-moi de t'aimer passionnément, Seigneur. Aide-moi de t'aimer comme jamais je n'ai pu t'aimer jusqu'à maintenant. Aide-moi, Père éternel, parce que si je t'aime de cette manière, alors à ce moment-là, tous les faux amours, tous les amours encombrants, ma cave et mon grenier qui est plein d'affection, de ceci et cela, pour des choses qui souvent sont inutiles, du temps perdu, du temps passé, Seigneur, ce sont des formes d'amour, tout ça. Mais ce ne sont pas des bonnes choses. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, aide-nous. Et puis il y a l'amour légitime, nos amours légitimes d'hommes. Oui, Seigneur, sur cette terre, eh bien sanctifie-les, afin que ceux que nous aimons, nous les aimions encore davantage. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fautes à l'amour. Pardonne-nous nos erreurs à l'amour. Pardonne-nous nos blessures à l'amour, les uns les autres. Alors merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous fais grâce, Seigneur, et tu bénis ton Église. Oui, tu bénis ton peuple maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons simplement te dire, eh bien, Jésus, je t'aime. Mais je ne veux pas que ça soit un mot. Je veux que ça soit une réalité. Jésus, je t'aime. Amen. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.